Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce podcast journalier avec le J-17. Ah, on est bientôt à la moitié. J-17. Quelques petites informations comme ça avant de démarrer le podcast. J'ai le dossard 134 à l'UTMB. Alors pour certains, ça peut paraître beaucoup. Mais l'an dernier, j'avais le 158. Donc en fait, je participe à l'UTMB depuis 2018. En 2018, j'avais le dossard 50 et quelques. Et chaque année, je reculais dans les dossards. Parce qu'en fait, chaque année, la densité augmente sur cette course. Attendez, j'ai très soif. Et la densité augmentant, le meilleur... C'est facile, c'est toujours Kylian Jornet. Mais et derrière lui, en fait, entre lui et le dixième, il y a de moins en moins d'écart. Et donc l'an dernier, j'étais passé au dossard 158, je disais putain quand même. Et là, 134. Donc finalement, il y a un petit peu moins de densité cette année que l'an passé. Alors après, c'est dur à dire parce qu'il y a aussi les dames. Tu vois, aujourd'hui, à l'heure du wokisme, on donne maintenant le dossard 1 à la première dame parce que sinon c'était pas bien quoi. Donc on a mal fait pendant 19 ans, heureusement ça y est, on corrige nos erreurs et là c'est Courtney de Walter qui a le dossard 1 malgré le fait que Kylian va lui mettre sans doute 2 heures. On lui a donné le dossard numéro 1. Bon, pourquoi pas hein. Mais donc ouais, quand j'ai le dossard 134, en fait, il faut compter que devant moi, il y a je sais pas combien de féminines. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même moins de densité cette année chez les dames sur les TMB par rapport aux autres années. Chez les hommes, tu vois, j'en mettrais peut-être pas ma main à couper. Il faudrait que j'ai la liste complète, mais ils la mettent pas. Ils mettent que jusqu'à celui qui a 850 de cote, donc je peux pas savoir. Je ne peux pas vous dire. Et oui, alors... Alors toujours pour que Sandrine Rousseau soit contente, parce que en France, ce qui est important, c'est que Sandrine puisse s'exprimer, parce que ce qu'elle a à dire est très intelligent à chaque fois. On met des femmes dans le premier sas. Alors là, ceux qui m'écoutent et qui connaissent pas l'UTMB, ils vont me dire oui, mais c'est normal, c'est la parité. Ok, d'accord, c'est la parité. Alors qu'est-ce qui se passe sur l'UTMB ? En fait. Quelle est la vie réelle par rapport à la volonté d'avoir des femmes dans le premier sas ? Le premier kilomètre, il est effectué à 17 km/h, d'accord ? C'est comme ça chaque année. Parce que c'est une toute petite ruelle et il y a plein de monde. Donc, on peut courir qu'à 2, peut-être à 3 de front. Du coup, le premier court à 17 à l'heure et tout le monde le suit. Parce que t'as pas le choix, il y a trop de monde. Il y a des gens devant, il y a des gens derrière, ça bourre. Donc, amie féminine, si vous voulez partir doucement, mais que vous êtes dans le top 10 féminin, eh ben non, vous êtes baisé. Vous allez partir à 17 km/h, comme les 50 premiers, et tant pis, parce que vous êtes dans le premier sas, du coup vous êtes devant. Donc derrière vous, il y a tout un tas de mecs qui ont envie de courir à 16-17 km/h, donc vous allez courir à 16-17 km/h, sinon, eh bien, la masse va vous rentrer dedans, vous allez tomber, et là, ça va être très très grave, comme quand Seb Chenio était tombé en... Je crois que c'était en 2011. Donc voilà. Au lieu d'en mettre quelques-unes, celles... Donc il y en a à peu près 5 qui vont finir dans le top 30, tu vois, grossièrement ce qu'on voit chaque année. Eh ben non, on en met une quinzaine. Une année, il y a Yuri, une petite japonaise, qui fait 1m50 et 35 kg. Non, je déconne, elle fait 39 kg. Qui est partie en deuxième ligne. Et derrière elle, t'avais des animaux de 2 mètres comme Hannes Namberger. Voilà. Voilà. Du coup, on la pousse. Bah oui, on fait pas exprès, mais bon, voilà, quoi. C'est un mouvement de foule. Eh oui. Mais bon, c'est pas grave, hein, ils sont contents. Hein, l'essentiel, c'est qu'ils soient contents. Alors... Vous avez vu aujourd'hui, je vous ai publié du coup la revue de presse. Alors hier soir, malheureusement, j'ai pas pu avoir Sylvain, donc j'ai eu ce midi. Et j'imagine que vous avez noté l'interview était de qualité. J'ai décidé de mettre la barre un peu plus haut là, avec les interviews. Bon, le week-end prochain, je ne crois pas qu'il y ait de grandes courses ou de grands coureurs. Mais disons que maintenant, donc vous le savez déjà, j'allais chercher des gens pour écrire les articles du vendredi, tu vois, ou le nutritionniste, au lieu que ce soit Hugo Ferrari qui te raconte des conneries parce qu'en fait, il n'est pas diplômé. Vous aviez Sébastien Ifenbrom qui rédigeait un article tout propre, etc. Et évidemment, je le rémunérais pour ça. Parce que, si tu veux, lui, il est comme tout le monde. Il aime le sport, il est obligé de travailler, et puis faire des enfants, c'est cool, et puis sa femme, faut s'en occuper, etc., etc. Donc, à un moment donné, t'as pas deux heures de ton temps libre comme ça pour raconter des conneries, quoi. Donc, paf, tu rémunères, et ça permet à la personne de pouvoir prendre le temps. Eh bien, j'ai décidé de faire un petit peu pareil avec les interviews du lundi, puisque il y a un lundi où j'étais vexé. Je sais plus ce qu'avait fait Mathieu Blanchard, mais je voulais l'interviewer. Puis je me suis dit, ouais, je vais le contacter et tout, ça va le saouler, il doit y avoir déjà plein de gens qui lui demandent, etc. Tandis que là, maintenant, j'arrive vers l'athlète en lui disant, bah tiens, j'ai envie de t'interviewer pour le Patreon, et puis je paye tant. Et en général, vu que personne ne les paye, parce que j'imagine bien que dans course épique, les mecs, ils y vont parce qu'ils sont gentils, et ben forcément, tout de suite, ils sont un peu réceptifs, tu vois. Et même, c'est beaucoup plus honnête, parce que en fait, quelque part, l'athlète qui vient sur le Patreon, il me fait un cadeau, tu vois. Donc, il est normal que je le rétribue. Comme disait Charles Gave, en fait, ce qui fonctionne dans le monde, c'est quand il y a une certaine vélocité de la monnaie. Donc, vous arrivez sur le Patreon en donnant de l'argent, ça fait une cagnotte, je me sers de la cagnotte pour que le Patreon continue d'être attractif, du coup, vous continuez de venir, du coup, la cagnotte est plus grande, du coup, on peut aller chercher des mecs un peu plus connus, un peu plus ceci, un peu plus cela, etc., 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 et normalement, les trois parties sont contents. Hugo Ferrari est content, le Patriote qui arrive, qui donne 5 balles, il a accès à des trucs exceptionnels. Et l'athlète qui vient de temps en temps intervenir, il est rémunéré aussi, il est content. Voilà. C'est magnifique. Alors, petite question aujourd'hui de Jean-Christophe Favreau. Une question un peu tranquille, c'est vrai. Mais j'avais envie de lui répondre, parce qu'il faut y penser à ça. Qu'est-ce qui serait une chose non maîtrisée, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais craindre sur la course, hein, bien sûr. Genre boule au pied, genou, bon, voilà. Un problème, quoi. Donc, voilà, Jean-Christophe veut qu'il m'arrive des problèmes. C'est pas très très gentil, mais bon. Venant d'un jurassien, ça m'étonne pas. Non, je rigole. Alors, il a raison de le dire, parce qu'en fait, tu as beau préparer ton UTMB, donc bah là, je le prépare assez bien, tu as beau faire tout ce qu'il faut. Tu sais, il y a les phrases comme ça. Ouais, tous les voyants sont verts. Puis deux heures après, le mec se tord la cheville. Donc, tu as beau tout faire bien, t'es au départ, tout s'est bien passé, t'es là, t'es athlétique, t'es en forme, t'as pas eu de soucis de sommeil, t'as pas de soucis de bouffe, t'es pas barbouillé. Voilà, tout va bien, t'es là avec ton short, ton t-shirt, sur la ligne de départ, Ludo Collet, boum, c'est parti, Vangelis, t'as la tatan, et ça galope, ça galope, ça galope. Et évidemment, tu vas rallier l'arrivée, et il aura fallu que tu gères tout un tas de problèmes. Alors ça, pourquoi pas ? Une petite hypoglycémie, voilà, bah ça peut arriver, à un moment donné, tu sais pas pourquoi, t'as consommé plus que ce que t'avais soi-disant prévu. Bon, bah, tu fais un arrêt un petit peu plus long au ravitaillement suivant, tu ralentis un peu l'allure, et puis dans une heure ou deux, tu peux peut-être recommencer à être performant. Enfin, en tout cas, c'est pas très gênant pour rallier la ligne d'arrivée. Pareil, finalement, au bout de 6-7 heures, tu te rends compte que t'es pas au top de ta forme. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Tu ralentis un peu, tu perds quelques minutes à chaque point de passage, mais au final, voilà, bah, tu vas arriver dans un temps plus ou moins correct, et finalement, la boucle sera bouclée. Tu oublies de boire, alors là, attention, ça peut aller vite, mais bon, maintenant, avec l'expérience, je pourrais me rattraper au ravitaillement d'après, tu vois, j'identifie ça assez facilement. Donc finalement, il n'y a pas trop de problèmes qui peuvent m'arriver. Après, je dirais que je crains quand même une chose, c'est la pluie. Alors, évidemment, tout le monde, tu sais, en slip dans ton salon, tu fais le malin, hein, tu fais « Ouais, y a pas de mauvaise météo, il y a que des mauvais vêtements. Ouais, bah ça, t'es là en train de regarder « Touche pas à mon poste », c'est facile à dire, hein. Par contre, deux, trois fois, j'ai fait des sorties de 6-7 heures sous une pluie sans discontinuité. Putain, tu te dis, c'est hard quand même. Hein. C'est hard. Donc la pluie, c'est vicieux parce que t'as beau être bien équipé. À l'UTMB, on voit quand même, col de la Seine, il y a quoi, 2005, 2006, en pleine nuit. S'il pleut là-bas la nuit, les températures peuvent être négatives. S'il y a un peu de vent, le ressenti peut être négatif, même s'il fait peut-être 2-3 degrés. Donc là, attention, parce que t'as beau être bien habillé, bien emmitouflé, et ben, va savoir pourquoi. Peut-être que t'es plus frileux que le voisin, peut-être qu'aujourd'hui t'es plus frileux que la semaine dernière. Il faut se méfier. Et le coup de froid peut être quand même vraiment violent. Imagine... Il pleut dès le début, puis ben, t'as jamais eu d'ampoule, mais ben, ce jour-là, elle arrive. Et il reste 120 bornes à faire. C'est quand même très emmerdant. Donc, je dirais que ouais, la mauvaise météo peut vraiment m'inquiéter. Parce que tu as beau partir... Moi, je pars avec du matériel que je connais et que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, normalement, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Mais même comme ça, je suis pas... hyper serein, tu vois. Je me dis, putain, si dès le départ il pleut et qu'il fait froid toute la nuit, ça va être un combat quand même. Donc ça, c'est peut-être ma crainte. D'autant plus que, mais là c'est l'ego qui parle, je pense qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de coureurs qui gèrent mieux la mauvaise météo que moi. C'est vrai que ça me gave assez vite. C'est... J'ai besoin vraiment de me concentrer pour pas faire de conneries quand il fait mauvais. Quoi. À l'inverse, je n'ai pas très peur de la canicule. Je me suis souvent forcé à m'entraîner au chaud et de toute manière, j'ai toujours fait du sport depuis petit et c'est vrai que j'ai observé que l'été, par rapport à certains qui devenaient un peu plus feignants ou quoi, moi je n'ai jamais vraiment rechigné à la tâche. Donc, c'est sans doute inné, hein, mais je tolère quand même mieux la chaleur. Et je pense que j'ai l'intelligence, quand il fait vraiment très chaud, de ralentir avant que les problèmes arrivent, alors que certains insistent. Évidemment, quand tu insistes, qu'est-ce qui se passe ? Ça casse. Ah. Donc ouais, ce qui m'embêterait, ce serait une très mauvaise météo, pluie, orage, mais quelque chose de vraiment hard. Hein. Le pied, la petite boule que j'ai sur le pied, écoute, là franchement, j'ai pas mal du tout. Ah putain, j'ai encore oublié d'appeler le chirurgien. Je vais annuler l'opération, j'en ai pas besoin. Donc ça m'étonnerait que ça se réveille du jour au lendemain, ce serait quand même prodigieux. Donc je ne suis vraiment pas inquiet du pied. La seule deuxième chose qui m'inquiète, c'est la chute. Ça, c'est vicieux, parce que si tu ne fais que de penser à ça, tu te dis « Oh là là, une descente, oh putain, merde, je vais me tordre la cheville, faut que je fasse gaffe !» Bon, bah là, tu te tords la cheville. À l'inverse, si tu réfléchis pas et tu fais le bourrin, tu peux te faire mal aussi. Donc, il faut toujours être dans un entre-deux, en mode « Ok, je contrôle quand même l'allure pour pas faire n'importe quoi. » Mais, quelque part, je descends quand même relâché. Après, on les connaît, hein, les trucs. Hein. Il faut éviter de discuter avec le mec derrière ou le mec devant. Il faut éviter de manger sa barre ou sa purée dans la descente. Évidemment, éviter de se retourner. Voilà. Mais, franchement, vous êtes comme moi, vous êtes déjà tombé plusieurs fois. Putain, tu le vois pas venir, quoi. Je veux dire, à l'aiguë, je suis tombé, j'ai pas fait exprès, quoi. À un moment donné, le pied, il s'est accroché à un caillou. En une seconde, j'étais par terre et ouais, malheureusement, le genou a tapé un caillou et il a gonflé. Et ouais, bah, c'est pas de bol. Alors après, c'est vrai quand même que à ce moment-là, je descendais un petit peu vite, dans un endroit un petit peu technique, et il faut le reconnaître, j'ai effectué ce qu'on appelle une prise de risque. Ce que, normalement, je ne ferai pas à l'UTMB, puisque la première descente que je risque de faire fort, ça va être celle du Grand Col Ferret. Et en fait, t'es tellement cramé que tu vas pas si vite que ça, du coup, il y a très peu de chances que tu te fasses mal. Mais, la chute, tu veux, c'est vraiment le truc, ça te pend au nez, c'est au-dessus de toi comme une épée de Damoclès. Et malheureusement, t'as beau être... T'as beau essayer de remplir toutes les cases, tu vois, gérer ton allure, donc ne pas aller trop vite ni pas assez vite, être bien ravitaillé, être bien réveillé, être bien entraîné en amont, ce qui fait que pendant la course, t'es bien focus. T'as beau faire tout ça, parfois, il y a le putain de facteur chance qui survient quand même. Enfin là, du coup, malchance. Et c'est la chute et patati, patata. Donc ça et la pluie, c'est quand même deux choses que je redoute. Après, le reste, il ne peut pas m'arriver grand-chose. Les seuls trucs qui vont m'arriver, voilà, c'est des choses anecdotiques qui, du coup, m'empêcheront de réaliser ma pleine performance. Mais bon, j'arriverai quand même à l'arrivée dans un chrono pas dégueu. Par contre, oui, il y a une foule de petites choses qui peuvent retarder un peu ma progression. Mais les deux trucs qui sont vraiment, pour moi, redoutable, c'est la très très mauvaise météo et la chute. Alors la très mauvaise météo, une fois qu'on a pris le départ, normalement on le sait, et ça devrait être plutôt cool. Et la chute, malheureusement, il faut être vraiment vigilant jusqu'au bout. Voilà. Alors, sinon, aujourd'hui, bah écoutez, je me réveille ce matin à 45 pulses, donc bon, voilà, ça veut trop descendre. 97 de saturation, comme quoi ça a dû me tabasser quand même cette marche hier à 3800 mètres d'altitude. Alors c'est normal, j'y suis jamais allé. Et le poids 58,6, bah écoutez, malgré que je mange quand même beaucoup, hein, ce qui est sûr et certain, c'est que pendant ce stage en altitude, je m'alimente beaucoup plus que lorsque j'étais chez moi à Vauglan. Ça c'est sûr et certain. Et malgré tout, le poids reste stable, voire même reste en dessous des 59 kilos. Donc, il faut continuer comme ça, il faut continuer à manger. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. ce matin, ouais, petit run à jeun. Alors, j'ai dû partir un peu tard, vers 8h20, parce qu'il fallait qu'à 8h10, je fasse l'interview à France Bleu Pays de Savoie pour le trail ce week-end, le Teen Trail. J'ai fait ma course à jeun, j'ai croisé deux personnes que je connaissais, je me suis arrêté par les 5 minutes au moins à chaque fois, voire même 10. J'ai un ami qui était là 3 jours, il était allé faire des photos avec les lumières du jour, on a essayé de se croiser, on y est arrivé, on a fait quelques photos, je suis reparti, donc voilà. La sortie, elle a fait 1h35 à la montre, mais elle a dû durer 2 heures. Pendant cette sortie à jeun, j'étais, mais toujours, ça fait déjà 5 jours, je suis dans une forme exceptionnelle. Là, vraiment, j'enchaîne, j'y vais, putain, là, j'étais... Je suis monté par une bosse où j'ai déjà dû la faire 4-5 fois cette année, là, le col du Palais, putain, je trottinais, bon, je remarchais hein, quand même à des moments, mais putain, c'était facile. C'était facile, fluide, je me forçais pas, le cardio montait pas trop, j'attaque la descente, hop, malgré quelques courbatures, les jambes, elles répondent bien. Bon, écoute, j'ai fait un peu de plat à la fin, j'étais à 14 à l'heure. Ben, j'ai dit, putain, ben c'est impressionnant, quoi. Donc, je rentre, j'étais super content. Là, je fais un petit déj amélioré, donc c'est petit déj classique plus... Non, j'ai fait le petit déj classique. Et après, j'ai fait des conneries pendant une demi-heure. Après, j'ai préparé mes affaires pour le vélo de l'après-midi, j'ai rangé des trucs. Et en fait, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je suis allé à la boulangerie prendre une tarte au citron meringué parce que Maison Chevalot fait des tartes au citron meringué. Je pense que vous avez jamais vu ça. C'est vrai que je vous ai souvent parlé du flan, mais alors la tarte au citron meringué, c'est assez incroyable. Donc j'ai ramené ma tarte au citron meringué chez moi. Là. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris ma collation. Donc j'ai fait le petit-déj, c'était 10h30. Et j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, 10h, et j'ai fait ma collation à 11h30, juste avant d'interviewer Sylvain Cachard. Parce qu'en fait, je voulais partir faire du vélo à 13h30. Donc finalement, j'ai fait un petit déj en deux temps. Et du coup, après, je pouvais faire du vélo l'après-midi. Donc, j'ai pris mes 50 grammes de noix. Pas de fruits parce que je n'en avais plus. Putain, faut que j'aille faire les courses. Et j'ai pris, bah, après, deux carreaux de chocolat. Et ensuite, j'ai mangé ma tarte au citron meringuée, mais qui était, du coup, qui arrivait dans mon bol alimentaire après le petit déjeuner et après la collation. Donc, bon, là, le super sapien, il est tombé en rade. Ça faisait 2 semaines que je l'avais. J'en ai encore 2, mais j'ai décidé que je vais pas les remettre avant l'UTMB parce que ça m'apporte du stress mental. Et avec Seb, on a vu que voilà, là, ça, le programme qu'il m'avait fait, ça roulait. Donc, je m'enlève un truc de plus là. Ça me libère un peu l'esprit. Et ouais, du coup, voilà. Après, bah, j'interview Sylvain, tac, je vous poste la revue de presse, etc., etc. Je pars faire du vélo, c'était 13h30, le temps de finir tout ça. Et là, le coach avait mis endurance de force, 50-60 tours par minute. Donc ça, si vous voulez, c'est pas très très dur. Parce que 50-60 tours par minute, bah, si vous êtes à 60, en général, les trailers sont des gens qui forcent plutôt bien. Ça vous demande pas trop de concentration, 50 un peu plus. La vraie force, c'est plus 40-45 et sur des fractions plus courtes, parce qu'on va monter peut-être un peu plus dans le cardio. Là, il fallait être léger dans le cardio. Et j'attaque à monter l'Isran. Et l'autre fois, je l'avais fait moitié grand plateau, moitié petit plateau, puis je jouais avec les pignons derrière. Cette fois-ci, j'ai tout fait sur le grand plateau. J'étais ultra fort. Pourquoi j'étais ultra fort ? Pas parce que j'étais capable de monter sur le grand plateau. Parce que mon cœur était un petit peu plus bas que la dernière fois. J'allais plus vite. Et quand il y avait des sortes de petits replats, je me rasseyais. Et chose que je n'arrivais pas à faire avant, quand je me rassois maintenant, je dégage beaucoup de puissance. Ça m'a beaucoup impressionné. En rentrant, j'ai regardé mon chrono sur Strava. J'ai monté le col de l'Isran. En égalant mon record personnel, sachant qu'en 2021, je l'avais fait sur un très très bon tempo. Donc là, bah, c'est une autre preuve, déjà 2 preuves dans la journée, comme quoi je suis très en forme. Et après, je suis descendu jusqu'à Tignes-les-Brévières à 1500 mètres et je suis remonté à 2130. Et pareil, je dégageais beaucoup de force dans la montée. Donc vraiment très très bien. Alors, je suis rentré, j'ai fait un petit repas light, j'ai essayé de remanger pas mal de légumes. Donc là, on finit le frigo, betterave et oignon. Voilà, superbe mariage. Avec 4 œufs, et ouais, pour nourrir mes grosses cuisses. Et puis derrière, on a mis seulement 80 grammes de riz posé cru parce que je mange, c'est 17h, et là, je vais aller chez des amis manger à 20h. Donc voilà, pas trop se gaver avant. Putain, faut que j'aille acheter une bouteille de vin en plus. Oh bordel, les journées passent trop vite. Et voilà, donc que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Que dire de plus ? Eh bien, écoutez, demain, je reviendrai en détail là-dedans dans le podcast quotidien, mais je vais adapter un peu l'entraînement. Parce que si vous regardez bien, jeudi, j'ai du seuil à faire à SV2, donc vraiment le plus dur possible pendant Tignes. C'est la journée où j'aurai les plus grosses intensités ce jeudi. Donc je me permets d'aménager un peu demain. Voilà, je vous en reparlerai un peu demain. Il y aura beaucoup de choses intéressantes sur l'entraînement. Et j'ai eu une question à propos du drive. Il y avait des personnes qui n'ont pas trouvé les documents dans le drive pour les allures UTMB, les documents de ça. Je n'ai pas mis en jour encore le dossier du drive, je vais le faire. Je vais le faire, rassurez-vous, d'ici un jour ou deux. Sans doute vendredi, là où j'ai la journée de repos. Mais en attendant, vous allez sur le Patreon et vous défilez, vous faites remonter les J-20, J-22, etc. Et vous allez tomber sur les documents. Ils sont téléchargeables directement sur le site Patreon. Mais je vais faire un petit dossier, UTMB 2023. Et voilà, j'ai pas encore pris le temps de le faire, désolé. Donc voilà pour les questions. Allez, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous demain pour digérer un petit peu avant de remettre le dernier vrai coup de collier jeudi. Et ensuite, après jeudi, on pourra le dire, on pourra le crier sur tous les toits. Ça y est, la vraie phase d'affûtage va arriver. Parce que bon, aujourd'hui, j'ai quand même fait 4h30 de sport. La vraie phase d'affûtage va arriver. Là, si vous voulez, on était dans un entre-deux. Le volume était fini. On a quand même fait 5 jours de boulot. Et après, on passe à l'affûtage. Donc en fait, si vous regardez, ça va descendre escalier par escalier. Nadine a posé une question très pertinente, mais je n'y répondrai que dans la dernière semaine, justement, pour comparer aux autres années. On comparera une fois que c'est fait. Voilà, bonne soirée.